Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, au juste? Et pourtant...
Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
Joseph Facal, Martine Ouellet, bon, salut, faut faire Joseph Facal. On va se reparler, mais allez voir Climat Québec, là, c'est quand même important. Puis c'est aussi, on peut pas penser qu'il y a, après notre génération, il y a plus rien, là, il y a plus rien qui existe. Non, non, il y a d'autres enfants, il y a d'autres personnes qui vont vivre. Joseph, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bonjour, merci. Écoute, tu veux, est-ce qu'on parle de l'Université d'Ottawa ou on parle de ce dernier sprint, là, de la campagne?
On parle de ce que tu veux, c'est ton émission. Choisis.
OK, d'abord, un mot sur ta chronique, là. C'est les profs sur haute surveillance à l'Université d'Ottawa. C'est pas réglé, là. On en parle moins, mais c'est pas réglé.
Non, c'est absolument pas réglé. Et ça ne peut pas être réglé parce que au-delà de l'incident triste, est toujours pas réglé concernant Mme Lieutenant Duval, on a affaire ici à une administration complètement idéologique, fanatisé, qui s'est installé au pouvoir. Et donc, c'est, si tu veux, toutes les pratiques quotidiennes qui sont en train d'être revues dans le sens de, bon, la promotion de cette idéologie. Tu sais, Benoît, à cause de mon métier, prof à l'université, j'écris beaucoup sur ce qui se passe dans le monde universitaire. Et à chaque fois, je suis étonné de voir le nombre de lecteurs que ça fait réagir. Je suis heureux de ça parce que j'ai tendance à penser que, bof, comme dirait François Legault, c'est une affaire qui n'intéresse que les intellectuels. Mais non, on voit qu'en dehors du monde universitaire, les gens commencent à réaliser que ce qui se passe dans nos universités, c'est grave, que la liberté d'expression recule, parce que, évidemment, ce qui se passe dans les universités, ensuite percole dans la fonction publique, dans les politiques d'embauche des entreprises, dans la rééducation du personnel, dans le traitement médiatique que certains jeunes journalistes feront de certaines histoires. Puis tu sais, Benoît, imagine une société dans laquelle des jeunes deviennent des adultes et accèdent à des postes de responsabilité en trouvant légitime d'interdire un mot, une idée, une œuvre, un thème, parce que ça heurte certaines personnes. Donc, c'est grave ce qui se passe dans nos universités, et on commettrait une erreur en pensant que Ottawa est un cas isolé. Ottawa est le cas le plus extrême de ce qui se passe là. On le voit sur un mode peut-être un peu moins dramatique sur d'autres campus.
Mais en même temps, là t'as toute cette question-là, mais Ottawa peut pas être la seule. Là. À l'UQAM, moi, j'entends la même affaire. À l'Université de Montréal, faut prendre tout le monde par les pincettes. Je veux dire, Joseph, combien de temps ça va durer, là? Parce que là, on en parle, mais il n'y a rien qui change. Là. C'est dans la culture.
C'est tout à fait dans la culture. En fait, la tension qu'on a vue entre Radio-Canada français et CBC anglophone, c'est le même fossé culturel qu'on voit dans nos universités. Donc, il est vrai que, si tu veux, Ottawa, McGill, Concordia sont plus avancés, mais tu as tout à fait raison de souligner que à l'UQAM, à l'UDM, on commence aussi à nous parler de l'autochtonisation des plans de cours, le guide pour la rédaction inclusive, et bien entendu, quand vient le moment des embauches, ben là, on voit très bien, n'est-ce pas, que certaines personnes n'ont aucune chance au départ parce qu'elles ne communiquent pas au Nouvel Évangile. Non, c'est vraiment grave ce qui se passe. Et bien entendu, comme les universités n'oseront pas dire qu'elles sont contre la liberté académique, ben, on essaie de ménager la chèvre et le chou. Et dans ma chronique de ce matin, tu vois, j'illustre les absurdités auxquelles on aboutit. D'un côté de la bouche, l'Université d'Ottawa dit « on protège la liberté académique, la liberté d'expression », puis de l'autre côté de la bouche, on dit « sous aucune considération, aucun mot ne pourra être prononcé s'il a caractère raciste ou haineux ». Le problème, c'est que du côté anglophone, on n'accepte pas. On n'accepte pas cet argument qui veut que tous les mots puissent être prononcés si l'intention est pédagogique et que les précautions d'usage sont invoquées. Pour certains, non, cette nuance n'existe pas. Un mot doit être banni. Alors, à partir du moment où un mot est banni en toutes circonstances, tu ne peux pas ensuite dire que tu défends et fais la promotion de la liberté d'expression.
Mais ça va péter. À un moment donné, ça va péter. Là. C'est parce qu'on ne peut pas se faire imposer ça par la minorité.
À un moment donné, ça va péter, Benoît, oui, parce que c'est le propre des révolutions. Les radicaux sont mangés par des plus radicaux qu'eux, qui à leur tour sont avalés par des plus radicaux.
Oui,
Le problème, Benoît, c'est que l'histoire montre que ça peut durer longtemps, ces affaires-là. Tu vois, quand on rentre dans ce circuit de jouer à qui est le plus pur, qui est le plus vertueux, ça peut durer des années. Tu vois, les modes idéologiques, Benoît, c'est pas comme les modes vestimentaires. OK, cet automne, la couleur à la mode, c'est orange. Non, non. Quand les mentalités des gens sont corrompues par ce qui est véritablement un virus idéologique, ça peut durer longtemps. Et ensuite, évidemment, ces gens se retrouvent dans les salles de rédaction des médias, ces gens viennent aux fonctionnaires, ces gens se retrouvent aux ressources humaines des grandes entreprises, et tout en découle ensuite. Comment communiquer, comment embaucher, qu'est-ce qui est attendu, les quotas, ainsi de suite. Donc, c'est pas drôle.
Comment tu réagis, toi, à cette l'expression-là? On va juste cet aspect-là, Joseph, quand François Legault dit que c'est suicidaire d'accepter plus que 50 000 immigrants, moi, je le comprends dans un terme où le français va disparaître si on n'arrive pas à franciser les immigrants puis à les intégrer.
Écoute, le premier ministre a le don de se mettre le pied dans la bouche à chaque fois qu'il aborde ce sujet parce que, disons-le poliment, la nuance n'est pas son fort. Le fait est que 50 000 immigrants, nous n'arrivons pas à les intégrer. Et bien entendu, tu sais, comme moi, Benoît, que le Québec reçoit beaucoup plus que 50 000 immigrants. En fait, si tu regardes les immigrants temporaires, économiques, qui passent par la filière fédérale, il y en a, au dernier décompte, je crois l'an dernier, 177 000 qui sont rentrés. Donc, la réalité est bien au-dessus du 50 000. Et quand, évidemment, j'entends des gens nous dire qu'il en faut plus que 50 000 à cause de la pénurie de main-d'œuvre, Benoît, combien il faudra d'études pour établir une fois pour toutes que l'immigration, si elle est à certains égards bénéfique, n'est pas une solution à la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'évidemment, ces nouveaux arrivants suscitent aussi une demande pour de la main-d'œuvre supplémentaire, puisque eux-mêmes consomment des services.
Bien, en même temps, avant qu'on se quitte, Joseph, là, tu sais, là, on parle d'immigration, on parle de baisse d'impôts. Je viens de recevoir Martine Ouellet, là, de Climat Québec, qu'on n'a pas entendu à peu près pendant toute la campagne électorale. Puis, tout ce que je vois, j'ai l'écran de CNN présentement, là. Ce qui arrive en Floride, c'est catastrophique. Même Ron DeSantis, qui est plus à droite que Donald Trump, dit que c'est un événement qu'on n'a pas vu en 500 ans. À Radio-Canada, on monte aussi les images de la Floride, là, qui subissent les contre-coups de Fiona puis de Yann. On parle pas sérieusement d'environnement, là, et c'est ce qui va toucher nos enfants et nos petits-enfants.
Tu as tout à fait raison, on ne parle pas sérieusement d'environnement. Mais tu sais, Benoît, permets-moi, pour les besoins de conversation, d'être un petit peu cynique. Bien sûr que l'environnement est important. Mais je te dirais que la plupart de nos concitoyens sont beaucoup plus environnementalistes en parole qu'en acte. À partir du moment où il faudra faire de gros sacrifices dans nos vies personnelles, à partir du moment où il faudrait, par exemple, accepter des taxes draconiennes sur l'essence et acheter des moins grosses cylindrées, ah ben là, tu vas voir que la vertu environnementale va prendre le bord chez beaucoup. Nous sommes des grands parleurs, petits faiseurs. Il n'y a pas beaucoup d'électeurs. Il n'y a pas beaucoup d'électeurs qui, dans l'isoloir, quand ils prennent le petit crayon, fond, de l'environnement, la priorité numéro un. Ouais. Et j'ai comme l'impression, Benoît, qu'il va falloir que quelques catastrophes nous tombent dessus avant qu'on se réveille pour vrai.
OK. Qui sera l'opposition officielle?
Écoute, pour des raisons démographiques, ça reste le Parti libéral qui est le mieux placé pour rafler les circonscriptions dans lesquelles tu as 30 ou 40 % d'électeurs non francophones. Mais ça n'empêchera pas le Parti libéral de faire probablement un score pire que sous Philippe Couillard. Mais comme notre système marche au siège et non au pourcentage, vraisemblablement, je dirais que c'est le Parti libéral qui est le mieux placé. Le Parti conservateur n'a pas montré qu'il était quoi que ce soit d'autre qu'un vote de protestation. Et le PQ, évidemment, fait la meilleure campagne. Mais pour avoir un certain nombre de sièges, il faut que tu concentres tes voix dans quelques comtés. Quant à QS, indéniablement, Gabriel Nadeau-Dubois a fait une belle campagne. On le savait doué. Maintenant, est-ce qu'il a réussi à rassurer les gens sur le radicalisme de son programme? Je pense pas.
Très bien. Joseph Facal, à lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Joseph, merci. À la semaine prochaine.
Merci à toi. Bonne journée. Bye.